l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Frédéric Naud-Dufour, docteur en histoire, directrice du Centre européen du résistant déporté de 2011 à 2019. C'est important de le dire parce qu'évidemment, c'est central et c'est très, ça va, je suppose, habiter ce livre dont on va parler aujourd'hui, La Villa des Jeunes et d'Or. C'est sorti aux éditions La Nuit est Bleue. Frédéric Naud-Dufour, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous serez ce mercredi au Centre communautaire de la paix pour présenter votre premier roman. Est-ce que ce roman, pour vous, c'était un travail d'écriture, on va dire, différent de vos travaux, parce que vous sortiez énormément de livres autour de Charles de Gaulle notamment. C'était un travail différent. Ça vous a libéré de la pression, on va dire, du travail historique de l'historienne?
Alors, c'est très différent d'écrire un essai historique, en effet, où on est un peu tenu par des règles déontologiques, par des sources, par des archives, etc., d'écrire un roman. Et écrire un roman, c'est une espèce de grande vague de liberté, puisque tout d'un coup, on a l'impression d'être seul face à ce qu'on veut écrire. Mais en réalité, on se trouve très vite confronté à une autre contrainte, qui est justement celle de la liberté. Et alors, je vous donne ce sujet de philosophie. Est-ce que la liberté, finalement, ce n'est pas la plus grande des contraintes, puisqu'il faut, au sein de tous les possibles, choisir ce que l'on va dire? Et finalement, j'ai trouvé que c'était assez difficile. Mais en même temps, la vraie liberté qu'on a, c'est qu'on peut, on peut faire transparaître ses propres sentiments, ses propres émotions. Et Dieu sait si autour d'un thème comme le Struthof, il y a quand même un très grand nombre de choses violentes que j'ai ressenties pendant toutes ces années et que je ne pouvais pas traduire en tant qu'historienne, mais où là, franchement, j'ai pu véritablement leur donner leur envol.
Vous aviez besoin de ça, vous, de coucher ce sentiment de choses que vous aviez peut-être pas pu dire au moment où vous étiez directrice du centre, où vous étiez tenue à des faits, à évidemment un travail de mémoire et un travail d'archives. Là, vous aviez besoin, vous, de coucher juste des mots et vos sentiments à vous en tant qu'humain.
Oui, je crois que c'est exactement ça. Je pense que tant que j'ai été directrice, j'ai fait mon travail avec le plus de professionnalisme possible, sans me laisser envahir par les émotions. Je ne sais pas où je les ai rangées, quelque part. Et puis tout d'un coup, une fois que je suis partie, ça m'a un peu submergée. C'est quelque chose, j'ai des images qui me sont revenues, des témoignages, des choses vraiment dures. Et il faut dire que ça s'est passé à une période de ma vie où, pour ma part, j'ai subi aussi toute une série de violences différentes. Et les deux, l'un dans l'autre, ont fait que tout d'un coup, il a fallu que je sorte tout ça d'une certaine façon. Et le roman s'est présenté comme étant la meilleure solution.
Alors, ce roman est inspiré du journal de Gretel, une Allemande qui a fait construire la maison en 1913, un journal écrit en allemand. Comment est-ce que vous avez découvert ces écrits?
C'était un journal, une photocopie d'une archive qui était dans les archives du Centre européen du résistant déporté et que j'ai découvert avec beaucoup d'émotion puisque c'est la vie d'une femme que je ne connaissais pas du tout. Et on est très très loin du nazisme, on est au début du XXe siècle. Donc on est dans une époque qu'on appelle en France la belle époque. On a encore beaucoup d'espoir, on pense que le monde va être en progrès. Et cette Gretel, c'est une femme généreuse, très humaniste, et elle décide de faire construire cette villa sur les pentes du Struthof parce qu'elle trouve l'endroit merveilleux, et c'est la vérité. C'est aussi l'objet de ce roman de rappeler que cet endroit était un endroit idyllique, poétique, avec un très beau paysage. Et Gretel donne le point de départ du roman. Et ensuite, je la quitte parce qu'elle aussi, elle quitte l'Alsace en tant qu'Allemande. Elle est chassée en 1918. Et en revanche, sa maison va suivre sa destinée.
Les Jeunes d'Or, c'est une métaphore, j'imagine. Ou alors, c'est vraiment cette nature luxuriante dont vous avez été au centre pendant toutes ces années où vous travaillez au Centre européen du résistant déporté. C'est quelque chose que vous aviez remarqué ou il y a vraiment une métaphore? Il y a quelque chose, c'est cette lumière que ça amène sur cette maison qui est presque le personnage central de votre roman?
En réalité, c'est le vrai nom de la maison. En allemand, elle s'appelle Der Goldenen Ginster, donc les Genêts d'or, et je trouvais que c'était un nom magnifique et qui reflète cette nature, puisqu'il se trouve que sur cette pente de terre assez pauvre, il y a énormément de genêts qui fleurissent donc au début de l'été, et la nature occupe une très grande partie du roman, parce que l'idée, c'est de montrer à la fois la beauté de cette nature, mais en même temps la façon dont l'homme se comporte de manière générale en prédateur de cette nature. Et on le voit, alors bien sûr, au paroxysme avec les nazis, qui exploitent non seulement le minerai, qui exploitent les hommes, qui exploitent les vies, mais même dans les périodes antérieures de cette villa, on la voit avec certains des occupants français de cette villa qui sont des chasseurs et qui vont eux aussi prélever leur lot de vie d'une certaine façon. Et je trouvais intéressant de montrer cette continuité pour bien expliquer ou faire ressentir au lecteur que le nazisme, il ne sort pas de nulle part, il sort d'un long processus qui vient de la nuit des temps et qui est un processus de prédation, un processus de violence et qui va atteindre là une forme d'extrême, je l'espère, indépassable.
Il y a également quelque chose que vous voulez vous transmettre aux jeunes générations. Vous l'avez beaucoup fait, ce travail mémoriel, mais également une façon de dire attention, il peut y avoir des prémices encore aujourd'hui en Europe ou tout près de chez nous, à nos portes.
Oui, bien sûr, j'espère que ce roman, comme tout le travail de mémoire, il a ce rôle d'avertissement. Je pense surtout qu'il met crûment les lecteurs face à la réalité que l'on part souvent de mots, hein. On dit barbarie nazie, on dit c'est sadique, etc. Mais là, on voit très clairement quelle forme prend cette violence. Plusieurs lecteurs ont dit qu'ils avaient été choqués, hein, par certaines scènes qui sont très dures. Mais en réalité, elles sont le reflet de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important de remettre ça devant les yeux pour comprendre à quoi on peut arriver si on laisse les mots s'installer d'abord, les paroles. Et j'ai travaillé énormément sur la langue nazie dans ce livre, parce que le nazisme, ça passe aussi par un vocabulaire, par une méthode de pensée, par une novlangue qui prépare ensuite les actes.
Maintenant que vous avez écrit votre roman sur cette maison qui a servi à la commandanture pendant toute l'occupation du camp de concentration et d'extermination du Struthof juste à côté, vous avez un autre regard sur cette maison. Vous arrivez, quand vous passez devant, à la voir autre que la maison du diable, on peut le dire, hein.
Oui, c'est une maison. C'est une maison qui, c'est vrai, qui fait un peu peur, hein, quand on la découvre au détour du chemin, sur ce chemin qu'on appelle maintenant le chemin des déportés. Elle a un côté très lugubre, avec ses volets fermés, son côté très sombre, très austère. Et j'arrive à l'imaginer au temps de Gretel, au temps des Genêts d'or, quand elle était justement entourée d'un beau jardin, qu'on jouait du piano à l'intérieur, qu'il y avait des fêtes. Et elle est le symbole de, je pense, de tout ce que la civilisation a perdu au contact du totalitarisme. Elle est le symbole de la destruction, c'est-à-dire qu'il y avait un bonheur possible, il y avait une joie possible. Et désormais, à cet endroit précis du Struthof, mais comme dans beaucoup de familles, la joie n'est plus possible. Elle a été totalement détruite, elle a été éradiquée par la puissance et la folie d'un groupe d'hommes.
Qui est propriétaire de cette maison maintenant ?
Aujourd'hui, cette villa appartient à l'État, au ministère des Armées. Elle fait partie intégrante du lieu de mémoire du Struthof. Alors, on ne peut pas la visiter parce que, d'abord, il n'y a pas grand-chose à voir à l'intérieur. Et surtout, pour la circulation du public, ce n'est pas du tout pratique. Mais on peut la voir de l'extérieur et voir aussi cette piscine, qui a aussi un rôle important dans le roman et qui a été construite juste avant la Seconde Guerre mondiale par le propriétaire alors français de la villa. C'est quand même hallucinant de voir cette piscine auprès du camp de concentration. Enfin, on a le même cas à Auschwitz. Donc, on a aussi cette cohabitation entre le délire du mal et puis une vie apparemment normale. Et avec ces nazis dans la villa, on va vivre aussi leur vie normale. Et c'est ça qui donne une impression très dérangeante. Et même pour moi qui ai écrit le roman, parce que j'ai dû vivre avec eux et presque me mettre dans leur tête, dans chacune des pièces de la villa. C'était pas la meilleure compagnie que j'ai trouvée.
Il faut la garder aujourd'hui, cette maison ?
Bien sûr, il faut garder cette maison parce qu'elle est un témoin de l'histoire du camp. Mais au-delà de ça, elle est témoin de l'histoire de l'Alsace, hein, qui a changé de main tant de fois. Et c'est important qu'elle soit là, bien sûr.
Vous allez être ici dans la communauté israélite du Bas-Rhin, au consistoire, dans la salle Bloom, en conférence, et demain, mercredi 26 octobre, pour présenter ce livre. Vous avez déjà présenté lors des Bibliothèques Idéales, on vous a déjà vu sur différents salons du livre ou librairies à parler de ce livre. C'est quoi les questions des lecteurs, des gens qui l'ont lu ou des gens qui en ont entendu parler? C'est quoi les questions les plus récurrentes?
La question la plus récurrente, c'est est-ce que tel élément dans le livre est vrai ou pas? En fait, ce qui tracasse les gens, c'est de savoir où est la vérité historique et où est-ce que j'ai inventé. Et donc, je le dis déjà à tous ceux qui voudraient me poser la question, je refuse d'y répondre parce que précisément, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est que dans ce livre, tout est ou pourrait être vrai. Et que tous les éléments qui y sont, sont un espèce de ciment ou de mélange, un mortier entre ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu dans les sources d'archives, et une manière de le retraduire pour qu'il nourrisse une fiction. Donc c'est indémêlable. Et moi-même, je ne suis pas sûre de pouvoir démêler, non pas le faux du vrai, mais le vrai du vraisemblable.
Et c'est pas l'idée, effectivement, vous le disiez, de ce livre. Et c'est quelque chose que vous, en tant qu'historienne, vous aimez, vous brouillez effectivement les pistes pour les lecteurs. Mais l'idée, c'est le récit, c'est un récit très bien documenté, archivé. Et vous vous êtes, laissé aller à votre plume, très jolie plume d'ailleurs, qu'on découvre dans ce roman. La Villa des Jeunets d'Or, donc Frédéric Nau Dufour, merci infiniment d'être venu parler de ce livre. Vous êtes, je le disais, à la salle Bloom du Consistoire, c'est demain soir à 20h. Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.